Nous recevons Gérard Genette. Gérard Genette est né en 1930 à Paris. Il est actuellement directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est également directeur de la collection poétique Au Seuil. Il est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, doctoresse lettres. Et parmi les publications, il est l'auteur de nombreux ouvrages, tous publiés Au Seuil. Je les citerai intégralement. Tout d'abord, Figure, paru en 1966, puis Figure 2, paru en 1969, Figure 3 en 1972, Mimologique, paru en 1976, Introduction à l'architecte, paru en 1979, Palimpseste, paru en 1982, Nouveau discours du récit, paru en 1983, Seuil, paru en 1987, Fiction et diction, paru en 1991, L'œuvre de l'art numéro 1, paru en 1994, L'œuvre de l'art numéro 2, paru en 1997, enfin, Figure 4, paru toujours Au Seuil en 1999. Je vous remercie.
Merci. Je vais commencer par une petite fable qui sera suivie d'une longue moralité. Un sultan, naguère fort actif auprès de ses 50 femmes, donne depuis quelque temps des signes de moindre empressement, voire d'absentéisme chronique. Consternation chez les concubines délaissées. L'une d'elles, plus hardie, ose enfin demander au maître les motifs de cette froideur. Embarrassé, celui-ci commence par nier le fait, puis invoque des soucis d'état, puis des raisons de santé. La vérité, comme souvent, finit par se faire jour. Hélas, avoue le sultan à ses penauds, j'aime un autre harem. Cette très vieille histoire drôle, ou pas drôle, pourrait nous aider, mais je n'en suis pas sûr, sinon à trancher, au moins à clarifier un peu cette non moins vieille question, peut-on aimer un genre ? Je réserve pour plus tard cette aide éventuelle, mais il doit déjà sauter aux yeux que les deux cas ne sont pas nécessairement identiques. Un harem n'est pas une classe logique, mais une collection empirique d'individus singuliers ou singulières, et cette différence devrait nous importer à un point ou un autre, et donc cette autre question, un genre est-il une classe ou un groupe ? L'appréciation esthétique est en principe toujours appréciation subjective d'un objet singulier. La relation à plusieurs objets singuliers, considérés néanmoins comme formant un objet esthétique, suppose ou bien qu'on les envisage ensemble comme un objet plus vaste, mais encore singulier, lorsqu'une œuvre comme Les souffrances de l'inventeur de Balzac se font à mes yeux dans une œuvre plus vaste, Illusion perdue, qui se font elles-mêmes dans une œuvre encore plus vaste, La comédie humaine, dont elle ne constitue plus qu'une partie, comme La Valkyrie se fond dans la tétralogie de L'anneau du Nibelung, ou Danseuse de Delphes dans la série des préludes de Debussy, et si l'on veut aussi, mais il me semble qu'on doit, Le paiement du tribut de Masaccio dans l'ensemble des scènes de la vie de Saint-Pierre à la chapelle Brancacci du Carmine de Florence. L'initiative légitime de ces faits d'emboîtement par composition revient en principe, mais non sans exception, à l'auteur, ce qui rend un peu plus difficile de les étendre à des ensembles plus vastes que l'œuvre au masculin complet du dit auteur, mais ils ne sont nullement propres aux œuvres d'art. Une fleur peut constituer un objet esthétique naturel ou une partie de cet autre objet singulier, naturel lui aussi, qu'est ce buisson, ou de cet autre encore, artificiellement composé, nous sommes là au bord de l'œuvre comme artefact, ce bouquet. Et il va de soi qu'un paysage est toujours un fragment de paysage. Ou bien qu'on les rassemble sous un concept commun qui est nécessairement d'ordre générique, qu'il s'agisse d'un genre empirique attesté par une tradition historique et plus ou moins consciente d'elle-même, par exemple la tragédie grecque, l'élégie romaine, la chanson de geste, la lyrique occitane, le roman arthurien, le roman picaresque, la sonate classique, la nature morte cubiste, le western, la comédie américaine, ou d'un genre analogique construit par voie théorique lorsque nous définissons de manière cavalière et intemporelle une entité thématique comme l'épopée en général, englobant à la fois l'Iliade, par exemple, Gilgamesh, la chanson de Roland, voire pour moi l'espoir de Malraux, ou formelle, comme le poème lyrique, ou thématico-formelle, comme le roman défini par Fielding comme épopée comique en prose. Je ne pense pas d'ailleurs qu'aucun genre puisse être déterminé de manière purement empirique. Le roman picaresque espagnol du XVIe et XVIIe siècle constitue bien une tradition historiquement et géographiquement délimitée, mais les termes « roman » et « picaresque » relèvent à coup sûr de définitions théoriques, et les spécimens du genre sont chronologiquement plus distants les uns des autres qu'on ne le suppose généralement sous l'effet d'une illusion rétrospective. Pour rester dans l'empirique pur, aussi pur que possible, il faudrait plutôt considérer une catégorie bien plus vaste et seulement historique telle que production littéraire espagnole des XVIe, XVIIe siècles. Mais il me semble que dans cet énoncé, l'adjectif littéraire fait encore, ou déjà, appel à un concept hautement théorique. Ces rassemblements génériques sont à peu près sans limite, puisque tout concept peut toujours être englobé sous le concept plus extensif d'une classe plus large. Classe serait d'ailleurs un terme plus congruent que genre pour les distinguer, pour les désigner, comme plus neutre et moins marqué par les errements séculaires de la poétique, mais il lui manque, on sait, la faculté de former un adjectif par dérivation, classique ne pouvant pas convenir. Comprenne donc, à partir de maintenant, genre et son adjectif dérivé générique, si possible dans ce sens neutre, celui des classifications naturalistes, et à l'écart de ses connotations proprement littéraires. Peut-on de nouveau aimer un genre ? Laissons hors de cause le cas des œuvres composées du type comédie humaine ou tétralogie, dont le caractère de singularité opérale n'est guère en doute, ni évidemment leur capacité à se prêter à une relation esthétique. La question reste donc, peut-on entretenir une telle relation, je veux dire relation esthétique, avec un genre, par définition pluriel, de quelque extension et de quelque compréhension soit-il, par exemple, la tragédie classique, ou le quatuor à cordes, ou la peinture cubiste, aussi bien qu'à une œuvre singulière. Notons au passage que la même question se pose de nouveau à propos des objets naturels. Peut-on avoir une relation esthétique à une classe telle que les roses, les montagnes ou les chats burmaises ? J'espère que vous connaissez cette race. La réponse peut sembler évidente, ou plutôt elle me semble-t-elle, attestée qu'elle est par l'opinion commune. Nul n'hésite à dire qu'il aime ou qu'il déteste, esthétiquement s'entend, les roses ou la peinture cubiste. Mais cette évidence immédiate pourrait dissimuler une ou plusieurs difficultés, ou pour le moins quelques obscurités, qu'il faudrait de nouveau tenter de résoudre ou pour le moins d'élucider. La première a peut-être quelque apparence de question de cours scolastique. Si l'on accepte, comme je le fais, la définition kantienne de l'appréciation esthétique, qui la stipule sans concept, on voit mal comment une telle appréciation pourrait porter sur un objet pluriel toujours nécessairement constitué comme une classe, historique ou analogique dans sa constitution, et donc défini par le concept de cette classe. Mais en fait, la réserve kantienne ne porte pas sur la constitution de l'objet, mais sur la nature du jugement d'appréciation qu'on lui applique. Le jugement de goût kantien, qui est ce que nous appelons l'appréciation esthétique, n'est pas, je cite, un jugement logique constituant une connaissance grâce à des concepts de l'objet, fin de citation, mais l'expression d'un sentiment de plaisir ou de déplaisir qu'aucune transition, dit Kant, ne peut relier à des concepts, même si le sujet esthétique croit à tort pouvoir parler du beau comme si la beauté était une propriété de l'objet et comme si le jugement de goût était un jugement logique. Autrement dit, le sans-concept kantien ne caractérise pas l'objet, mais bien l'appréciation elle-même, fondamentalement subjective, et que rien ne prescrit logiquement dans les propriétés de cet objet. Cette absence de relation logique entre les propriétés de l'objet et son appréciation esthétique, on n'en dirait certes pas autant à propos d'autres sortes d'appréciations, par exemple pratiques ou morales, s'appelle aussi, toujours chez Kant, impossibilité d'un principe objectif du goût. C'est le titre du paragraphe 34 de la critique de la faculté de juger qui commence ainsi. Par principe du goût, on entendrait un principe tel qu'ayant satisfait à la condition qu'il impose, on serait en mesure de subsumer le concept d'un objet pour en conclure ensuite qu'il est beau. Mais c'est absolument impossible. En effet, je dois pouvoir éprouver immédiatement du plaisir à la représentation de l'objet, et aucune ratiocination usant d'arguments probants ne me procurera ce plaisir. Fin de citation. Bref, on ne peut conclure du concept d'un objet le plaisir ou le déplaisir esthétique que procure cet objet. En revanche, la connaissance de cet objet passe bien par des concepts, même, je suppose, s'il s'agit d'un objet singulier dont l'identification, pour le moins, doit recourir à des concepts de genre proche et de différences spécifiques. En ce sens, même l'objet le plus irréductiblement singulier aurait son concept ou son réseau de concepts, à moins peut-être de se trouver, fût-ce provisoirement, parfaitement non identifié et donc pur événement sensible. Mais laissons ce cas, puisque notre question porte sur des objets génériques, au sens susdit, nécessairement identifiés par voie de concept, si approximatif, voire confus, ou erroné soit-il. En somme, tout objet est connu par concept, a fortiori si l'on veut l'objet générique, mais le concept de cette connaissance ne peut entraîner ni donc justifier aucune appréciation de type esthétique qui ne peut procéder que du plaisir immédiatement éprouvé à la représentation, comme dit Kant, de cet objet. Je puis définir plus ou moins bien ce que j'entends par épopée, je dois même le faire, évidemment par une démarche conceptuelle, pour constituer cet objet, et donc aussi pour le constituer en objet de relation esthétique. Aimez-vous l'épopée ? Mais cette définition conceptuelle est sans rapport avec le plaisir que j'y prends, et a fortiori de nouveau avec le plaisir que je prends à telle ou telle épopée singulière. En revanche, ou plutôt pour cette raison même, le fait que cet objet soit constitué par voie de concept ne fait pas plus obstacle à cette appréciation esthétique que cette constitution ne peut commander cette appréciation. Cela est impossible, dit Kant, et d'un autre ordre, disait déjà Pascal à propos d'autre chose. La deuxième difficulté tient sans doute à la définition, ou plus simplement à l'identification de l'appréciation esthétique elle-même, et peut-être de toutes sortes d'appréciations subjectives, comprenant, en termes kantiens toujours, aussi bien les jugements d'agrément physique, par exemple « j'aime cette poire », que les jugements de goût esthétique au sens moderne, par exemple « j'aime cette symphonie ». Il sera peut-être utile de considérer un instant, par un bref détour, le cas des premiers, qui sont de conditions apparemment plus simples. Si je dis, fût-ce tacitement, cette poire est bonne, ce jugement d'agrément témoigne à coup sûr du plaisir ou, c'est ici la même chose, de la satisfaction physique, gustative en l'occurrence, je vous laisse le soin des transpositions ou extrapolations nécessaires, que j'éprouve ou que je viens d'éprouver à sa dégustation. Je puis sans doute exprimer la même satisfaction en disant ou en pensant « j'aime cette poire ». Ou mieux, j'ai aimé cette poire. Il vaut généralement mieux attendre la fin d'une action ou d'un événement pour en juger en toute certitude. Le verre peut être dans la dernière bouchée, qui est d'ailleurs toujours la dernière du fait qu'on y a trouvé un verre. Cette formulation est même plus conforme à la vérité, c'est-à-dire une fois de plus au caractère subjectif de l'appréciation. Cette poire est bonne n'exprimerait peut-être pas le sentiment de la personne avec qui j'aurais partagé cette poire et qui ne partagerait pas mon goût pour elle, je veux dire pour la poire. Donc, j'ai aimé cette poire ou cette poire m'a plu, traduite à peu près fidèlement, quoique sommairement, faute d'analyse plus poussée, une satisfaction gustative singulière est située dans le temps, en l'occurrence dans un passé malheureusement révolu. Mais admettons pour les besoins du parallèle que je sois en cours de dégustation et que je déclare au présent la bouche pleine, je m'en excuse, et avec un degré de confiance en la suite raisonnable et ultérieurement justifiée, j'aime cette poire. Encore une fois, cette poire est bonne n'ajouterait à ce constat de plaisir qu'une dose largement illusoire de prétention à l'universalité, prétention dont la discussion, je crois, ne nous importe pas ici. Exit donc provisoirement peut-être l'appréciation objectivée et qui se croit universelle. Donc j'aime cette poire. Ce qui m'importe maintenant, c'est de confronter un jugement de ce type. Vous pouvez, à votre gré, je le rappelle, changer de fruit ou de sorte d'agrément physique. Je vous renvoie au harem initial. Avec cet autre jugement, j'aime les poires. Je simplifie outrageusement la situation, car personne sans doute n'aime également toutes les variétés de poires. Mais je ne veux pas entrer dans des embarras botaniques qu'on pourrait bien retrouver au niveau de chaque variété. Je vais même simplifier jusqu'à supposer cette espèce gustativement assez homogène pour justifier cette appréciation générique. Chacun sait pourtant qu'on ne mange jamais deux fois la même poire, fût-ce de la même variété. Admettons au moins que le jugement fait abstraction des vertes, des blettes et des tapées. La différence de sens, me semble-t-il, doit sauter aux yeux. J'aime cette poire exprime un plaisir singulier. J'aime les poires ne traduit pas un plaisir générique, notion, je crois, fantomatique, mais seulement, ou plus largement, un goût générique. Autrement dit, le verbe aimer, qui nous intéresse, ne porte pas exactement le même sens dans ces deux, ou dans ces deux sortes d'énoncés. Dans le premier, il désigne un plaisir réel, éprouvé au contact d'un objet effectif. Dans le second, le plaisir potentiel, envisagé à l'idée d'une classe d'objets qui ne peut en aucun cas se trouver entièrement présente à moi lorsque je la considère en esprit. Ce ne serait pas forcer beaucoup les choses que de dire en termes plus courants que dans le premier, il exprime un plaisir et dans le deuxième, davantage un désir. Aimer cette poire suppose que je la déguste ou vienne de la déguster. Aimer les poires suppose à coup sûr que j'en ai déjà dégusté quelques-unes et gardé un bon souvenir, mais ne me met aucunement en position de les déguster toutes, tout au plus de le souhaiter. Pour le dire encore autrement, j'aime cette poire exprime in presentia, ce que requiert d'ailleurs l'emploi du démonstratif 7, un plaisir sensible et immédiat. J'aime les poires exprime in absentia le constat d'une série de plaisirs passés et plus ou moins récurrents, et l'extrapolation de ce constat empirique à une catégorie générale forcément abstraite. Or, ce deuxième mouvement de généralisation pourrait fort bien ne pas se produire, laissant au constat son allure purement factuelle. Dans le meilleur des cas, j'ai aimé toutes les poires que j'ai goûtées, ce qui, faute de généralisation gustative, éluderait toute espèce de projection dans le futur. La différence est grande, de nouveau, entre ces deux énoncés, « j'ai aimé toutes les poires » et « j'aime les poires ». Différence non seulement du simple constat à une projection inductive peut-être inconsidérée, l'espèce pourrait après tout se détériorer en bloc, comme il arrive tous les jours à bien d'autres, mais encore, à moins que ce ne soit la même différence, de l'application d'une appréciation gustative d'un ensemble empirique, quelques poires dont j'ai gardé souvenir, à cet ensemble théorique, l'espèce des poires en général, passé, présente et à venir. Le premier, comme notre emblématique harem, que je n'oublie pas, est une collection d'individus, le second est une classe. Or, aimer une collection d'individus, un groupe, n'est peut-être pas tout à fait la même chose qu'aimer un individu, mais ce n'est à coup sûr pas du tout la même chose qu'aimer une classe. Mais il se trouve que cet énoncé collectif factuel, « j'ai aimé toutes les poires », etc., ne se présente guère, nous laissant partager entre le constat de plaisir singulier « j'aime cette poire » et la projection « j'aime les poires », qui n'est pas le constat d'un plaisir, mais, je me répète, celui d'un goût générique, au fond abstrait, comme dépourvu d'objet. Le comique, puisque comique il y a, ou si comique il y a, de l'histoire du sultan ne tient qu'à l'incongruité supposée de l'application du verbe « aimer » à cette collectivité, si chaleureuse qu'on puisse la fantasmer, qu'est un harem. Si « aimer » veut dire ce que ce verbe veut dire dans notre culture, Il ne peut dans ce sens s'appliquer qu'au sentiment exclusif et passionné qu'une personne singulière porte à une autre personne singulière. En ce sens donc, on ne peut aimer un harem, ni bien sûr un autre harem. On, je veux dire un sultan, peut très bien apprécier à la fois un harem et un autre harem, voire préférer l'un à l'autre, sans que cette préférence éventuelle doive entraîner le choix douloureux de notre sultan, qui avoue piteusement sa préférence, comme un mari coupable avoue à sa femme qu'il en aime exclusivement une autre. Mais dans le sens moins passionnel qui fonde, je l'ai supposé, l'énoncé « j'aime les poires », et donc des énoncés tels que « j'aime encore mieux les oranges que les poires », l'application de ce verbe à une collection empirique d'individus n'a plus rien d'étrange. Et un amateur de fruits peut dire sans incongruité que, par exemple, les trois oranges qu'il a mangées hier lui ont plu davantage que les trois poires d'avant-hier. On sait que dans la comédie de Carlo Gozzi, L'amour des trois oranges, bien sûr, ou du moins dans l'opéra de Prokofiev, que je connais un peu moins mal, le héros, justement, tombe amoureux de trois oranges, avant de savoir qu'elles recèlent trois ravissantes princesses, dont il finira par épouser, hélas ou non, une seule, les deux autres étant mortes entre-temps. Le folklore sous-jacent n'ignore donc apparemment pas ce que l'amour pluriel des fruits peut révéler de l'amour des femmes, voire d'une femme. Un harem, comme je crois le comprendre, n'est donc pas une classe. C'est typiquement un groupe d'individus, aussi concret que chacun ou chacune des individus qu'il comporte, et la relation à ce groupe est en fait aussi concrète que la relation à chacune de ces individus constituantes. Je préfère mettre tout ça au féminin. S'il est difficile d'éprouver à l'égard d'un groupe le sentiment passionnément exclusif que désigne ordinairement le verbe « aimer » à propos de personnes humaines singulières, et encore une fois, c'est seulement là que réside l'incongruité plaisante de la phrase du sultan, il ne l'est nullement d'évaluer le degré de plaisir que l'on éprouve à la fréquentation, voire à la simple contemplation de ce groupe, et donc de mesurer relativement ce degré de plaisir à celui qu'on éprouve à la compagnie d'un autre groupe, comme on compare l'agrément d'un bouquet à celui d'un autre bouquet, sans se soucier de décomposer chacun d'eux en autant de fleurs singulières. Proust a bien décrit ce fait à propos de la petite bande des jeunes filles en fleurs, justement, de Balbec. Il ne les compare pas à un bouquet, mais plus volontiers à un madrépore, un polypier, parlant d'une bande zoophytique et d'une nébuleuse indistincte dont il subit le charme collectif, toutes ces expressions sont de Proust, bien avant d'y distinguer, d'une manière d'ailleurs longtemps hésitante encore et comme erratique, une Andrée, une Gisèle ou finalement, hélas, une Albertine. Avant ce moment d'individuation, cristallisation passionnelle dont la cause est, chez Proust comme chez Stendhal, un moment de doute et ou de frustration, on peut presque dire à la cristallisation près que Marcel est amoureux collectivement et sans faire le détail de la petite bande tout entière. « Je n'en aimais aucune, les aimant toutes », dit Marcel. Quiconque a par exemple enseigné à plusieurs classes simultanément, ou d'ailleurs aussi bien successivement, classe désigne ici bien évidemment non plus une classe logique mais un groupe pédagogique, a connu à quelques degrés, où les performances scolaires n'entrent pas toujours pour beaucoup, ce sentiment à objet pluriel. Ce point, j'y insiste, ne vise à rien d'autre que de distinguer un peu plus fermement les deux sens du verbe « aimer », d'une part lorsqu'il s'applique à un objet individuel ou éventuellement collectif, et d'autre part lorsqu'il s'applique à un objet générique. Au risque de me répéter, le premier exprime une satisfaction effective, le second, une disposition potentielle, c'est-à-dire un désir en attente d'objets réels et de satisfaction, qui pourrait dans l'avenir n'en obtenir aucune, et qui n'a nullement pour fonction d'en fournir une, mais tout au plus de susciter des conduites de recherche. Si j'aime les poires, je puis chercher à m'en procurer, et ainsi de suite, mutatis mutandis. Même remarque, bien sûr, pour les verbes antonymiques tels que détester. Détester un fruit singulier est une réaction de dégoût physique. Détester les fruits en général est une disposition négative qui me détourne de toute recherche de ce type d'objet et qui, si elle est authentique, m'expose à une réaction de dégoût en cas de rencontre imprévue. Resterait à rapprocher peut-être ce que l'on vient de séparer. Mais il convient en même temps d'abandonner enfin le terrain peut-être trop facile des jugements d'agrément physique et d'en revenir à celui des appréciations proprement esthétiques, au sens moderne du terme, bien entendu. Le cas des objets esthétiques naturels est souvent très proche de celui des objets physiquement agréables, qu'ils sont d'ailleurs bien souvent à quelques degrés, mêlant au plaisir de la contemplation celui éprouvé ou désiré de la jouissance physique. Difficile, on le sait, de séparer la beauté d'une rose de l'agrément de son parfum, la grandeur d'un paysage de montagne de la fraîcheur qu'il dégage, et bien sûr la grâce d'un corps féminin du désir qu'il inspire, du bonheur, disait Stendhal, c'est-à-dire du plaisir qu'il semble promettre. Inutile donc de s'attarder sur un sujet qui ne déplace guère utilement la question. Il va de soi que la distinction entre les appréciations physiques « aimer cette poire » et « aimer les poires » a son équivalent dans celle entre les appréciations esthétiques « aimer cette rose » et « aimer ce bouquet » comme groupe empirique et « aimer les roses » comme espèce botanique et classe logique. Les œuvres d'art, comme nous l'avons déjà entrevu, posent des questions plus spécifiques. Tout d'abord, la frontière entre groupe et classe est ici plus poreuse, du fait sans doute de facteurs génétiques, que l'on ne rencontre pas aussi manifestement, bien qu'ils y existent aussi, dans les objets naturels. Les scènes, comme disait Balzac, constitutives de la comédie humaine, appartiennent sans doute plus ou moins à une même classe analogique, celle du genre littéraire roman, que Balzac évitait d'ailleurs d'assumer, parfois de la nouvelle, toujours en tout cas du récit en prose. Elle constitue d'autre part un groupe empirique, non seulement parce que Balzac les a groupés lui-même en un ensemble ordonné, tardivement ordonné, mais aussi et plus simplement parce qu'elles sont toutes, pour nous, sorties, comme on dit, de la plume du même auteur. Pour nous, en ce sens que, et dans la mesure où, cette parenté génétique nous est connue et nous importe, bien sûr. On peut en dire autant des parties du Ring wagnérien, à la fois individus du genre opéra et œuvres du même compositeur, ou des panneaux de la vie de Saint-Pierre, individus du genre fresque et œuvres plus ou moins du même peintre, plus ou moins. Mais composent aussi bien et plus purement, puisque sans groupement auctorial délibéré, un groupe génétique, les œuvres génériquement fort diverses d'un Stendhal, romans, essais, autobiographies, récits de voyage, etc. D'un Beethoven, opéra, sonate, quatuor, symphonie, ou d'un Picasso, je renonce ici à tout inventaire générique particulièrement difficile et oiseux dans ce cas. On pourrait donc soutenir que l'identité génétique détermine une unité empirique de groupe et que l'identité générique, au moins quand elle est elle-même clairement identifiable, détermine une unité théorique ou conceptuelle de classe. Mais il se trouve que l'identité génétique ne se réduit pas à l'identité auctoriale, parce que l'auteur, comme individu physique et moral, n'est pas la seule source empirique capable de déterminer l'unité d'un groupe d'œuvres. De même que l'œuvre d'un auteur est parfois, plus ou moins, susceptible d'une assignation générique dominante, Balzac, romancier, malgré lui et malgré son théâtre, Shakespeare, dramaturge, malgré ses sonnets, Verdi, compositeur d'opéra, malgré son requiem. De même, et réciproquement, un genre est plus ou moins susceptible d'une assignation génétique, par exemple, de type historique et national. La tragédie est grecque du 5e siècle, la suite relève plus ou moins de la séquelle ou du revival. La chanson de geste est française du XIe, XIIe siècle. Le roman picaresque est espagnol du XVIe, XVIIe siècle, même remarque. Ces genres historiques, parmi bien d'autres, comme on les appelle parfois, constituent donc à la fois des classes analogiques par leur similitude thématique et ou formelle, et des groupes empiriques par leur relative unité de source. Aimer ou détester un genre ne consiste donc pas seulement, ce qui n'est pas rien, et j'y reviens à l'instant, à aimer ou détester les traits communs à diverses œuvres que ne réunit parfois rien d'autre que cette communauté thématique est ou formelle. Comment peut aimer ou détester ce qu'il y a d'épique à la fois dans l'Iliade, dans Gilgamesh et dans la chanson de Roland, ce qu'il y a de nature morte de Chardin à Braque, ou ce qu'il y a d'opéra de Monteverdi à Albanberg, mis à part toute hypothétique filiation génétique, mais aussi parfois à s'attacher à un ensemble à la fois générique et génétique d'œuvres, entre lesquelles se tisse un réseau complexe de parenthèses effectives, par imitation ou continuation, de similitudes thématiques, de contrastes formels ou l'inverse, bref, une circulation, une interaction transopérale qui peut faire une grande part du plaisir ou des plaisirs, quelque peu madréporien pour réévoquer Proust, ou peut-être rhizomatique, comme disaient Deleuze et Guattari, qu'on y trouve, et qui n'est peut-être pas sans analogie, mutatis mutandis, avec le plaisir ou des plaisirs que notre sultan trouve à ou avec tel ou tel de ses nombreux harems. Comme toute relation esthétique, la relation à ce que l'on perçoit comme un genre est à la fois un fait d'attention cognitive et un fait d'appréciation affective. Le second seulement sous-déterminé par le premier, qui en est donc la condition nécessaire mais non suffisante. Il n'est pas d'appréciation esthétique sans attention, si superficielle soit-elle, mais l'attention esthétique peut n'entraîner aucun mouvement d'appréciation, soit parce qu'elle aboutit à une appréciation tellement neutre, cet objet m'indiffère, qu'elle peut à peine passer pour telle, soit parce que cette attention de visée purement cognitive, point de vue de l'historien ou de l'expert en attribution, ne s'accompagne d'aucun jugement, même tacite, soit enfin parce que l'objet de cette attention est trop général et abstrait pour constituer un objet esthétique. Ce serait apparemment le cas des genres dits théoriques à constitution et définition analogique. Je ne crois pas pourtant que cette considération négative suffise à congédier la possibilité d'une relation esthétique à un genre, si conceptuel que soit le mode d'existence de cet objet. J'ai déjà dit pourquoi la clause kantienne du « sans concept » ne me semble pas porter sur ce point, et l'un des mérites de l'art dit contemporain est peut-être de nous avoir rendu conscients de ce qu'un concept peut fort bien faire l'objet d'une appréciation esthétique. L'œuvre conceptuelle, comme l'a dit un de ses défenseurs, vaut ce que vaut son concept, ce qui signifie en termes plus subjectivistes que tel concept, et donc la classe qu'il définit au moins virtuellement, peut me plaire davantage que tel autre. Je n'ai garde d'assimiler absolument le statut conceptuel d'une entité générique à celui d'un ready-made de Duchamp ou d'un happening de Robert Barry, mais enfin, l'appréciation qui consiste, comme nous le faisons maintenant tous les jours, à trouver esthétiquement bonne ou mauvaise une idée de ce genre, in absentia, et d'une manière également applicable à toute éventuelle réalisation conforme ou analogue, n'est pas si éloignée de celle qui consiste à évaluer les mérites ou démérites respectifs d'un objet théorique tel que la tragédie ou l'épopée. Exposer un porte-bouteille comme œuvre d'art est bien en un sens un acte générique, puisque n'importe quel individu de la classe des porte-bouteilles se prête à l'illustrer. Et lorsque je tiens une telle opération pour intéressante, ce qui est une appréciation esthétique comme une autre, il va de soi que mon intérêt porte sur le genre porte-bouteille et non sur ce porte-bouteille en particulier que je n'ai d'ailleurs peut-être jamais vu. Ce ready-made est un genre. Tout ready-made est un genre et il va de soi que le ready-made en général est un genre. La poétique d'Aristote et l'esthétique de Hegel, entre autres, offre quelques exemples d'appréciation générique de cette sorte. Ainsi, la poétique s'achève-t-elle sur une comparaison esthétique et technique entre tragédie et épopée, tout à l'avantage de la première, et qui répond point par point à un parti contraire où l'on ne peut manquer de reconnaître sous couvert d'anonymat Platon lui-même, avatar plutôt virulent de l'opposition bien connue et d'une amplitude générique plus vaste encore, entre l'adepte de la diégésis ou récit pur de tout dialogue, c'est Platon, et celui de la mimésis dramatique en général. C'est Aristote, comme on dit sur les rings. Cette page finale, moins sereine à vrai dire que celle qui précède, évoque de nouveau la situation toujours emblématique de notre sultan entre ses deux harems. Les deux harems étant ici Diégésis et Mimésis. Hélas, dit à peu près Aristote, répond à peu près Aristote à Platon, j'aime un autre genre. On peut trouver puéril une telle attitude, comme si l'on ne pouvait faire valoriser un objet générique ou singulier sans lui opposer en chien de faïence le repoussoir d'un autre objet présenté comme antithétique, comme si l'on ne pouvait être pour ceci sans être contre cela. Aristote répondrait sans doute, et non sans raison, que ce n'est pas lui qui a commencé cette stupide querelle. Mais on doit bien reconnaître un peu plus que des restes de ce type de manichéisme à toute époque. Par exemple, au XVIIIe siècle, dans la querelle des anciens et des anciens en général et des modernes en général, ou aujourd'hui même, pour ou contre l'art contemporain, ou chez ceux qui ne peuvent favoriser la fiction ou le roman sans condamner, ipso facto, les genres non fictionnels comme l'autobiographie, l'histoire ou le non-fiction novel, et réciproquement, bien sûr. Il ne serait d'ailleurs pas trop aventureux de trouver dans ce dernier cas une résurgence assez fidèle de la guerre quelque peu picrocoline entre la diégésis platonicienne et la mimésis aristotélicienne, à ceci près que l'opposition entre pur récit et représentation dramatique s'étant, dans la conscience critique du moins, presque résorbée en faveur du seul récit, diégésis et mimésis s'y rapatrient comme en abîme en fiction et diction. Sur ce terrain, du moins, l'attitude de Hegel est moins polémique que celle d'Aristote, bien sûr, qui ne s'en prend à aucun adversaire, clandestin ou désigné. Mais le système de l'esthétique tout entier, tant au niveau des différents arts qu'à celui des différents genres à l'intérieur de chaque art, fonctionne comme une vaste machine implicitement axiologique, où chaque moment se trouve dialectiquement opposé au moment précédent, les deux termes antithétiques étant voués à une synthèse qui les dépasse. L'illustration la plus claire de ce mécanisme est, dans l'ordre de la poésie, la fameuse triade de l'objectivité épique, de la subjectivité lyrique et de la synthèse dramatique. Mais on peut observer que les arts eux-mêmes doivent se plier à un schéma de cette sorte, à cette réserve près que la succession historique, déjà difficile à rabattre sur la tripartition théorique épique, lyrique, dramatique, l'antériorité de l'épopée sur la poésie lyrique n'étant guère plus qu'un postulat commode, se prête encore plus mal à ce nouvel exercice, puisque l'art ou les arts romantiques, peinture, musique, poésie, moment par excellence de l'intériorité subjective, vient de toute évidence après le moment synthétique de l'art classique, c'est-à-dire la sculpture grecque, qui succède lui-même au moment objectif de l'art symbolique par excellence qu'est l'architecture égyptienne. Le moment de l'équilibre classique, clairement valorisé, au moins sur le plan proprement esthétique, je cite, « L'art classique s'affirma ainsi comme la représentation la plus authentique de l'idéal, comme l'instauration du règne de la beauté. Rien ne peut être et ne sera jamais plus beau. » Signé Hegel, bien sûr. Donc ce moment d'équilibre classique se trouve en position historique médiane, ce qui oblige Hegel, contre sa préférence esthétique manifeste, à accorder au troisième terme, dépourvu du mérite de la relève synthétique, de Aufhebung, une autre supériorité plus mystérieuse et plus spirituelle qu'esthétique. Je cite de nouveau Hegel, « Il existe cependant quelque chose de plus élevé que la belle représentation de l'esprit sous une forme sensible, qui est la caractéristique de l'art classique. L'esprit, qui repose sur le principe de l'adéquation à lui-même, sur la fusion de son concept et de sa réalité, ne peut trouver une existence conforme à sa nature que dans son propre monde, dans le monde spirituel, dans sa propre âme, avec les sentiments qu'elle abrite, bref, dans son intériorité la plus intime et la plus profonde. » C'est l'art romantique. Par chance, les trois arts romantiques trouvent à satisfaire entre eux le propos hiérarchique en s'étageant de nouveau de la peinture qui est objective à la musique qui est subjective et de celle-ci enfin à la poésie, nouvelle synthèse, non plus médiane comme celle de la sculpture classique, mais ultime, réalisée par l'art le plus spirituel. Encore faut-il ici fermer les yeux sur le déroulement de l'histoire réelle, puisque les trois grands genres constitutifs de cet art romantique, et comme tel en principe d'inspiration chrétienne, se voient illustrés par les accomplissements épiques, lyriques et dramatiques de la poésie grecque antique. Cette impressionnante construction ne laisse donc pas, vue de près, de brinque-ballet en grinçant au rotule comme une machine de tinglis. Les préférences esthétiques de Hegel, comme on le sait, s'investissent plus heureusement et de manière plus convaincante à l'écart du système, ou plus exactement dans certains de ses détails, en oubliant quelque peu les vastes et fragiles perspectives métagénériques. Mais ces détails restent bien, chacun sur son terrain propre, d'ordre générique. La sculpture grecque, par exemple, la tragédie attique, l'église gothique, la peinture hollandaise, bien sûr, et celle-ci à plusieurs reprises, comme si cet objet, si visiblement privilégié, réclamait d'être traité avec l'éclat que l'on sait, à divers titres et sous divers angles, une pluralité d'abord qu'on retrouve encore à propos du roman moderne et qui contribue fort à dénoncer le caractère artificiel de la structure d'ensemble. Ces éblouissantes descriptions génériques, qui laissent souvent deviner sous l'évocation synthétique l'allusion plus ou moins voilée à telle ou telle œuvre paradigme, illustrative par excellence de l'essence d'un genre, l'Iliade, plutôt que l'Odyssée pour l'épopée, Antigone, et non comme chez Aristote, Édipe Roi pour la tragédie, Wilhelmmeister pour le roman, montre bien que, pour Hegel, la critique générique n'est pas d'une nature fondamentalement différente de celle des œuvres singulières. On sait d'ailleurs que déjà la phénoménologie de l'esprit traitait en termes conceptuels, comme moment de son odyssée de la conscience, des textes singuliers tenus pour exemplaires, comme le neveu de Rameau, qu'elle s'abstenait tout à fait de nommer et qui, de ce fait, fonctionnait à peu près comme un genre. Cette interaction constante entre l'œuvre individuelle et le concept générique, cette façon parfois de traiter le genre comme une œuvre et l'œuvre comme un genre, montre bien la porosité de leur distinction du point de vue qui nous occupe. Si la poétique générique, qu'ont si bien illustré Aristote et Hegel, transcende par définition les œuvres, des œuvres qu'elle ne peut cependant jamais ignorer, la critique elle-même ne peut s'enfermer dans l'immanence singulière et ignorer les catégories génériques dont sa pratique descriptive et appréciative ne pourrait s'abstenir sous peine de s'enfermer dans une extase muette ou purement exclamative. Bien des amateurs d'art mystique, disait sarcastiquement Friedrich Schlegel, bien des amateurs d'art mystique qui tiennent toute critique pour une dissection et chaque analyse pour une destruction du plaisir, s'ils pensaient jusqu'au bout, devraient admettre que Miltonner est le jugement le plus approprié pour un chef-d'œuvre. Il y a d'ailleurs des critiques qui ne disent rien d'autre, mais de façon très développée. Fin de citation. Je ne prétends pas qu'une telle attitude soit aujourd'hui très répandue, sinon parmi les amateurs les moins éclairés et les moins articulés, qu'ils me pardonnent, de musique pop ou de bande dessinée. L'attention à l'unique, que Gabriel Marcel recommandait à la critique littéraire, ne peut en réalité se passer, comme le lui objectait aussitôt Albert Thibaudet, d'un, je cite Thibaudet, « sentiment des ressemblances, des affinités », j'ajouterai volontiers des différences, qui est bien obligé de s'exprimer de temps en temps par des classements. Fin de citation. Et classer signifie nécessairement conceptualiser et donc généraliser. Aucune attention ne peut s'enfermer dans l'immanence de l'unicité. Aucune appréciation n'échappe à toute comparaison, au moins implicite. Au reste, la critique monographique, je veux dire la critique qui prend pour objet typique l'œuvre entière d'un auteur ou d'un artiste singulier, en renvoyant cette œuvre à la personnalité, profonde ou non, de cet artiste, cette pratique qui est, depuis Sainte-Beuve et sans excepter Proust, au moins en littérature et en fait dans tous les arts, la critique par excellence, ne constitue-t-elle pas ne consiste-t-elle pas à traiter cet ensemble souvent fort vaste et fort divers qu'indexe un nom comme Balzac, Beethoven ou Michel-Ange, comme une sorte de classe à un seul individu, dont elle s'efforce de dégager et de définir les traits constants ou récurrents et donc communs à toutes ces occurrences. Vous l'avez sans doute compris, aimer ou détester un auteur ou un artiste, comme nous ne cessons de le faire, et surtout de le dire, c'est déjà ou encore aimer un genre, puisque un auteur ou un artiste n'est rien d'autre qu'une classe et ou un groupe d'œuvres. Et je ne suis même pas sûr qu'aimer ou détester une œuvre singulière soit un sentiment beaucoup plus proche de cette singularité absolue que Gabriel Marcel appelait l'unique. Rien n'est tout à fait singulier, rien n'est absolument générique. Dès lors qu'on sait ce qu'on aime, cette connaissance introduit dans ce sentiment, si j'ose dire, un ferment de généricité puisque d'identification spécifique. À la question « peut-on aimer un genre ?», la bonne réponse est peut-être cette autre question « peut-on vraiment aimer autre chose ?». Je reviens à notre sultan et à son harem, qui m'évoque à son tour une page de « Si le grain ne meurt ». Le jeune André Gide lit à haute voix devant sa mère une page d'Albertus, où Théophile Gautier entreprend de détailler les attraits d'une jouvencelle. Soudain alarmée pour l'innocence de son cher fils, Madame Gide, mère, s'empare du livre, parcourt les strophes suivantes d'un œil vigilant et saute à la conclusion, capable selon elle de résumer au mieux les strophes censurées. Bref, dit-elle, elle valait tout un sérail. Cet éloge ambigu, voire injurieux, je n'ose dire insultant, n'est pas sans rapport avec notre objet. Une œuvre qu'on aime vaut tout un genre et réciproquement. Comme disait Lacordaire, sans doute à propos d'autre chose, il n'y a qu'un amour. Je vous remercie.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Moi, j'ai une question un peu humoristique. Je voudrais vous demander si on peut aimer un groupe de gens ou un genre de groupe.
Ah, certainement.
Oui. Vous posez ces deux cas comme exclusifs l'un de l'autre. Votre « ou », quel est le sens de votre « ou » ? Non, mais c'est capital. Ah, mais ça ne m'arrange pas, ça. Ça ne m'éclaire pas davantage.
Disons que pour moi, le genre de groupe, c'est le genre de groupe d'appartenance. Vous comprenez ?
De moins en moins. Enfin, je crois qu'on peut aimer tout ça, si vous voulez une réponse...
Bien. En somme, d'accord.
Ah ben.
Une autre question, là. Là, d'abord.
Bon, moi, j'ai une question à vous poser bien précise. Je voudrais savoir, vous parlez d'aimer ou de ne pas aimer la poire et tout ça. Je pense qu'à travers l'âge, on peut aimer quelque chose à 20 ans qu'on n'aime pas à 30, et puis quelque chose à 30 qu'on n'aime pas encore à 40, et détester vice-versa, etc. Est-ce que l'âge a une raison pour vous ?
Hélas. Mais il me semble que tous mes énoncés prétendument illustratifs de la question étaient au présent. Enfin, pour répondre sérieusement à votre question, et sans forcément faire intervenir l'âge, parce qu'il peut intervenir aussi des séquences temporelles beaucoup plus brèves que celles qu'on assigne en général aux âges de la vie. Il me paraît évident que les énoncés
d'appréciation esthétique ou d'agrément physique, pour reprendre la distinction kantienne, que j'ai mis en scène sont tous des énoncés ikétnink. Sinon que en tous les cas, en ce qui concerne la relation physique ou esthétique ou autre, s'il y en a, à un objet singulier. Évidemment, j'aime cette poire, c'est j'aime cette poire maintenant. Je ne vais pas attendre 15 jours. Ou si j'ai déjà attendu 15 jours, je n'aimerais sans doute pas. Ou moins, enfin. Oui. Oui, oui, Nietzsche a fait le chemin inverse. D'ailleurs, j'ai perdu un instrument dans cette affaire. Vous pourriez l'accrocher là. Oui, donc pour les relations à un objet singulier, la réponse est claire, n'est-ce pas ? Nous sommes ikétnink. Pour la relation à un genre, comme j'ai mis tous ces énoncés, comme j'ai mis prudemment, sans savoir que c'était prudent, tous ces énoncés au singulier, cela désigne également des appréciations génériques, pour le coup, présentes. C'est-à-dire que si je dis... j'aime l'opéra, ça veut dire évidemment j'aime actuellement l'opéra. Et ça peut laisser, je ne veux pas dire occulter, mais ça peut laisser entièrement de côté ou en arrière le fait qu'éventuellement, il y a 20 ans, je n'ai pas aimé l'opéra. Donc, je ne sais plus si je réponds à votre question parce que je ne sais plus bien quel en était le point. Je ne me hasarderai pas à envisager des, pour moi en tout cas, à envisager des énoncés d'appréciation du type j'ai toujours aimé ceci ou cela. Ça doit pouvoir marcher pour deux ou trois petites choses, mais sans doute pas pour toutes. Et en tous les cas, je ne crois pas avoir voulu faire intervenir cette question, ce qui ne veut pas dire que votre question n'est pas pertinente, naturellement, mais qu'elle n'était pas dans le champ de mon objet, là, qui était plus focalisé, en somme, sur le présent. Que ce présent soit de type... relation à un objet singulier ou de type relation à un objet générique.
Une autre question, monsieur, levez-vous, s'il vous plaît.
Alors, vous avez terminé votre exposé en disant que dès que l'on sait ce que l'on aime, il existe un ferment de généricité. Et je pense qu'on peut rapporter ça à un élément que vous n'avez pas utilisé, qui est un petit peu sous-jacent à la théorie kantienne, justement, le fait que Kant... qui définissait le beau comme sans concept et qui faisait une esthétique particulièrement ouverte à la nature non conceptuelle du sentiment esthétique, était quelqu'un qui, il a bien dit, n'aimait pas les jardins à la française, mais préférait les jardins à l'anglaise. Et que donc, sa théorie, aussi anticonceptuelle qu'elle soit, le portait à préférer tel ou tel genre de jardin. Et donc, par conséquent, ne pourrait-on pas rapporter cette phrase finale de l'idée que dès qu'il y a appréciation esthétique consciente, il y a constitution d'une théorie, d'une certaine forme de théorie, et qu'en retour, cette théorie peut constituer pour l'individu, selon ses goûts, une propédeutique au bon goût qui lui permet justement de s'affirmer selon le fait qu'il aime un genre en particulier.
Oui, j'ai un peu de mal à répondre pour Kant, mais je crois avoir dit que le sans-concept même dit plusieurs fois, que le saint concept de Kant ne s'appliquait pas à la constitution de l'objet, mais à la relation entre l'objet et le, ce qu'il appelle le jugement de goût. Et par conséquent, je crois, mais vraiment, il faudrait le convoquer, mais l'année est bientôt finie. Je crois que, pas, que cette clause du saint concept n'empêche pas plus Kant que moi d'aimer un genre plutôt qu'un autre. Alors effectivement, il aime mieux, pour des raisons qu'il n'est pas très difficile de... d'expliciter. Effectivement, il aime mieux les jardins à l'anglaise que les jardins à la française. Moi aussi, d'ailleurs. Et je pense qu'on trouverait assez facilement chez lui bien d'autres appréciations portant sur des objets génériques. Mais je crois que, encore une fois, c'est tout à fait à l'écart du fait qu'il n'y a pas de relation conceptuelle entre la définition de l'objet et le plaisir esthétique ou autre qu'on y prend, tout simplement parce que c'est un plaisir, et qu'un plaisir ne peut pas être... Un plaisir peut s'attacher à un concept, mais il ne peut pas être déterminé conceptuellement par un objet, que cet objet soit un concept ou un autre. Par exemple, il n'aimait pas la musique, ça, c'est un gros genre, hein.
Monsieur.
Parce que ça fait du bruit, en gros, c'est ce qui... C'est pas faux.
Monsieur, il y a un genre que vous n'avez pas évoqué, vous avez parlé du classicisme, du romantisme, de beaucoup de genres, c'est le genre baroque. Peut-être parce que c'est une invention relativement récente pour un genre ancien, mais est-ce qu'il est baroque de définir un art baroque ?
Non, est-ce qu'il est absurde, vous voulez dire, parce que là, si on joue trop sur les mots, on n'en sortira pas. Est-ce qu'il est absurde de qualifier un art de baroque ? Est-ce qu'il est étrange ? Étrange, je ne sais pas, ça dépend pour qui. Absurde pour moi, non, bien sûr. Mais je ne parlerai pas d'un genre baroque. Enfin, je ne définirai pas le baroque comme un genre. Pour moi, le baroque est un... Pour parler gros, hein, pour moi, le baroque est un style qui peut s'appliquer à bien des genres. Alors, il y a des genres qui sont baroques plus que d'autres, en ce sens que ces genres, que ce soit en littérature, en musique, enfin, c'est pas la même période en musique, mais peu importe, que ce soit en littérature, en musique, en architecture, en peinture, en sculpture, etc., le style baroque s'applique plus spécifiquement, plus... je ne sais pas comment dire, enfin de préférence, à certains genres. Si bien qu'on doit pouvoir dire en effet qu'il y a des genres qui sont baroques et d'autres qui ne le sont pas. Mais je ne dirais pas que le baroque est un genre. Le baroque est un style qui, sans doute comme tous les styles, s'est appliqué à certains genres plutôt qu'à d'autres. Le style gothique, par exemple... C'est appliqué à certains types d'architecture, à certains genres architecturaux, en particulier, bien sûr, les églises, et même plus précisément les cathédrales, et un peu moins à d'autres. Et le style baroque, naturellement, s'est appliqué à un certain type d'édifice plutôt qu'à d'autres. Mais enfin, pour répondre plus simplement à votre question qui était simple et qui était claire, pour moi, le baroque n'est pas un genre, c'est un style.
Une question là, sur notre droite.
Mmh. Bonjour.
Oui. Restez debout, merci.
Celui-là.
Sur notre droite.
Oui, c'est bon.
Bon. Alors, je ne sais pas si ma question a vraiment un sens, mais bon, je vais essayer de la poser. Alors, en fait, je me posais la question si c'était plus intéressant, par exemple, pour arriver au plaisir... de s'intéresser au genre ou à un objet, à l'objet en particulier. Est-ce que, par exemple, ne pas aimer un genre pouvait empêcher de s'intéresser à un objet particulier qui fait partie de ce genre. Alors, je ne sais pas si ma question a vraiment un sens, mais bon.
Si, si, beaucoup de sens, en effet. Et ça, votre question attire l'attention de tout le monde, j'imagine, en tous les cas la mienne, sur le fait que une appréciation esthétique portant sur un genre, surtout si on l'exprime sous la forme incroyablement simpliste que j'ai été obligé d'adopter pour aller vite, qui est aimer et ne pas aimer, que donc ce type d'appréciation générique n'est évidemment pas, comment dire, n'exclut évidemment aucune exception. C'est vrai que j'aurais dû dire ça au moins quelque part, mais sans doute parce que je n'y ai pas pensé, donc vous faites très bien de m'y faire penser. Naturellement, aimer un genre n'entraîne pas que l'on aime forcément tous les individus appartenant à ce genre, et la réciproque négative est évidemment aussi vraie, oui. Il y a même sans doute, mais je ne sais pas, il y a même sans doute un plaisir particulier à aimer un individu dans un genre qu'on n'aime pas. Je ne vais pas chercher d'exemple.
Une question tout
en haut. Oui, pardon, j'ai entendu une remarque que je tiens à répercuter. Voilà. Tout le monde a entendu ? Swann, à la fin d'Un amour de Swann, dit « Quand je pense que j'ai failli mourir pour une femme qui n'était même pas mon genre. Mais vous savez qu'il a fini par l'épouser. »
En amphithéâtre, une question, oui.
Oui, effectivement, dans votre discours, j'avais l'impression que c'était très binaire comme réflexion. Comme j'ai entendu beaucoup de questions, c'était j'aime ou j'aime pas. Or, un individu peut avoir des goûts éclectiques et aimer plusieurs genres dans une même catégorie. Par exemple, en musique, on peut à la fois aimer l'opéra, la techno, etc. Alors, que pensez-vous des gens qui ont des goûts éclectiques et qui aiment plusieurs genres dans la même catégorie ?
Oui, c'est le cas de mon sultan qui aime plusieurs harems et qui a bien tort de délaisser l'un pour l'autre. Il devrait les honorer tous, mais c'est plus facile en musique. Mais c'est plus facile pour la musique, je veux dire. Pardon. Mais je ne pense pas avoir dit, je suis sûr de ne pas avoir dit, et j'espère ne pas avoir impliqué que la relation esthétique au genre, au pluriel, devait être d'un type sélectif ou a fortiori exclusif. De même qu'on peut aimer plusieurs sonates, on peut aimer la sonate et le concerto, et puis la nature morte et le paysage, etc. On peut aimer tous les genres, mais vous pensiez plutôt à... Enfin, il me semble que vous avez donné des exemples qui relevaient plutôt de... Enfin, qui ne relevaient pas seulement d'une problématique générique, parce que si on dit sonate, symphonie, concerto, quatuor à cordes, etc., on passe d'un genre à l'autre, mais on reste à l'intérieur de... je ne sais pas comment dire, d'un certain domaine musical, comme on dit toujours, d'un certain style, comme on dit le style classique en musique. Si vous mettez en balance, je ne sais pas moi, la symphonie classique et le rock ou le jazz, il est évident que vous avez affaire à des dénivellations, je ne prends pas ça dans un sens axiologique, hein, mais vous avez là affaire à des changements de sorte, j'essaie de trouver des mots aussi neutres que possible, qui débordent un peu la simple considération des genres. la différence entre le jazz et la musique classique n'est pas évidemment du même ordre que la différence entre la sonate et la symphonie, par exemple.
Une question là sur notre droite. Oui, monsieur, allez-y. Oui, allez-y.
Il y a un auditeur qui vous a parlé du rapport au temps, mais du rapport au temps concernant celui qui aime. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport au temps du genre, c'est-à-dire de la chose aimée? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne peut pas donner plusieurs exemples d'art qui ont été remarquables au tout début, dans leur naissance, et puis qui finalement se dégradent et aboutissent à une fin? Alors, on peut pas couvrir tout le genre, mais je veux dire que le genre varie en fonction du temps.
Oui, absolument. Je n'ai vraiment rien à objecter à cette remarque. Naturellement, les chants génériques à travers toutes les sortes d'art sauf à certaines époques bien spécifiques, sont en remaniement constant, oui, bien sûr. Par conséquent, il est bien vrai que ça n'empêche pas la phrase d'être au présent, mais si vous dites, je ne sais pas moi, j'aime la lyrique occitane, par exemple, il est évident, ça veut dire que vous, parce que c'est possible, c'est une possibilité qui n'est pas forcément universelle, mais ça veut dire que vous aimez au présent un genre dont on peut considérer, sans doute, je ne voudrais pas me faire trop d'ennemis parmi les Occitans présents ou à venir, ça peut vouloir dire en effet que vous avez une relation esthétique présente à un objet passé, peut-être passé. J'ai eu tort de choisir cet exemple. Il n'y a naturellement aucune espèce de... aucune espèce de raison pour que la lyrique occitane ne se maintienne pas. D'ailleurs, elle a dû se maintenir, mon exemple est stupide. Mais si je dis j'aime la tragédie grecque antique, là, je prends moins de risques. Si je dis que j'aime la tragédie grecque antique, il est clair que j'aime maintenant un objet passé. Passé. Mais dont, naturellement, étant donné ce qu'est la survivance, les survivances de toutes sortes, d'ailleurs, des œuvres d'art, cet objet passé reste présent sous la forme que vous savez, mais qui n'est pas, naturellement, celle de son émergence initiale. D'accord. Il faudrait évidemment plutôt, mais ça doit pouvoir se faire, mais je manque d'imagination, il faudrait plutôt envisager un objet artistique qui soit aujourd'hui définitivement éteint et sans aucune espèce de possibilité de résurgence. J'ai un peu de peine à prononcer une phrase comme ça, parce que c'est un peu triste, mais il est probable que ça existe. Bon, dans toute la mesure où nous avons des traces, disons pour le moins, d'objets passés de ce genre, nous pouvons donc très bien continuer à aimer aujourd'hui un objet pourtant disparu aujourd'hui, au moins sous la forme qui était sa forme initiale, un peu comme nous pouvons regarder, la comparaison est grossière, comme nous pouvons regarder aujourd'hui des étoiles qui sont déjà mortes ailleurs.
Encore deux questions, madame, d'abord.
Oui, je voudrais revenir à quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, sur, au ferment de généricité. Vous avez conclu votre propos en disant que, en vous demandant si on pouvait aimer autre chose qu'un genre. Je voudrais savoir si finalement c'est pas tout simplement, enfin peut-être lié au fait qu'il s'agit d'énoncer, c'est-à-dire qu'il s'agit de langage, et qu'à partir du moment où il s'agit non pas de réfléchir, enfin autant de réfléchir sur la manière dont on dit qu'on aime ou le fait qu'on dise qu'on aime que sur le fait qu'on aime, le langage étant le langage classant de toute façon les choses, est-ce que en formulant notre appréciation, on ne lui donne pas forcément un caractère générique?
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit quelque chose comme, à partir du moment où on sait ce qu'on aime, C'est-à-dire à partir du moment où on est capable de définir, en somme, l'objet de ce de cette appréciation esthétique positive. Alors effectivement, c'est à partir de là implique une activité au moins intellectuelle et généralement langagière, bien sûr, qui introduit ce que j'ai dû appeler, je crois, un ferment de généricité. Sauf, encore une fois, relation tout à fait, brute à un objet complètement non identifié, du genre « c'est chouette, ça, mais je ne sais pas ce que c'est ». Là, en effet, il n'y a pas beaucoup de généricité en jeu, ou alors une généricité très, très, très vaste, qui est celle que désigne le mot « ça ». Mais donc, la relation esthétique à un objet complètement non identifié et donc complètement non défini peut en effet exister sans la présence de ce ferment de généricité. Mais ce que je crois, c'est que ce type de relation est très rare et que ça n'est probablement pas le type de relation le plus caractéristique de notre relation aux objets esthétiques en général et surtout aux objets artistiques, autrement dit aux œuvres d'art, si singulières soient-elles. Il est très très difficile que quand on éprouve le fait qu'on aime quelque chose, de n'avoir aucune espèce d'idée de ce que c'est. C'est bien une chose, au moins. Pas dites donc, c'est un concept, ça.
Une dernière question, monsieur Levez-vous.
Je voulais poser une question sur le rôle circonstanciel des genres. Vous avez cité le cas de Shakespeare, qui en effet a écrit des pièces et des sonnets. Mais on sait qu'il a écrit ses sonnets dans les années 1590, le milieu des années 1590, au moment où pendant 2 ans, les théâtres étaient fermés. Donc Shakespeare avait, quand les théâtres étaient ouverts, une commande d'une ou deux pièces par an, et on sait qu'il a composé donc ses sonnets pendant cette période où les théâtres étaient fermés. On peut dire que pour beaucoup d'écrivains, le genre est un genre souvent circonstanciel, et que naturellement, un écrivain est un artisan, un écrivain doit gagner sa vie, donc Shakespeare écrivait des pièces quand il devait écrire des pièces pour des théâtres qui étaient ouverts. Une fois que les théâtres n'étaient plus ouverts, en effet, il a pu écrire des sonnets. Mais on peut imaginer un Shakespeare qui aurait écrit 2 ou 3 pièces de plus et qui n'aurait pas écrit de sonnets.
Certainement. Ce serait peut-être dommage, mais enfin, comme nous n'avons pas ces pièces, évidemment, il est difficile de se prononcer. Mais naturellement, mais je crois que je n'ai pas du tout évoqué, l'aspect, disons pour aller vite, génétique de la pratique générique des différents artistes. Évidemment, la plupart des artistes ont pratiqué plusieurs genres et dans cette pratique diversifiée entre un grand nombre de considérations dont certaines peuvent en effet être de l'ordre de celle que vous évoquez à propos de Shakespeare, ou plus brutalement, puisque beaucoup d'écrivains ne gagnent pas leur vie, certains, pour la gagner quand même, peuvent répondre, par exemple, à des commandes, le mot « commande » pouvant prendre parfois un sens assez brutal, sans sans considérer de manière désagréable les phénomènes de totalitarisme esthétique qu'a connu notre siècle, finissant, Molière écrivait ce qu'on lui demandait d'écrire, en gros, et dans le genre qu'on lui demandait d'honorer, n'est-ce pas ? On, en général, c'était la cour, même précisément le roi. Et il y a naturellement bien d'autres exemples. Et quand Racine a cessé d'écrire des tragédies pour se faire historiographe du roi, ça aussi, c'est une commande dont j'ignore un peu les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire l'aspect autoritaire d'un côté, l'aspect économique de l'autre, l'aspect Dieu sait quoi. Peut-être qu'il en avait marre d'écrire des tragédies aussi. Mais toutes ces choses peuvent arriver. Mais ça n'entrait pas du tout dans ma considération. Vous faites bien de le mentionner, mais ça n'entrait pas dans ma considération. Je prends les diversités génériques telles qu'elles se présentent et je ne me suis évidemment pas, quel travail, interrogé, qui a déjà été fait d'ailleurs, sur la genèse de la chose. Pourquoi les Grecs ont-ils fait des tragédies et des comédies d'ailleurs aussi.
Gérard Genette, je vous remercie. Merci.